Bonsoir. Situation carcérale au Kasaï oriental. Plus de 30 détenus de la prison centrale de Mujumaï sont décédés des malnutritions de janvier à août dernier. 33 détenus restent encore gardés à l'hôpital général de référence de Dipumba où ils suivent des soins. Ces derniers temps, presque chaque semaine, l'on enregistre un décès parmi eux. Leur prise en charge médicale pose problème selon des sources hospitalières, faute de médicaments. Au site Kivu, à la prison centrale d'Uvira, sur une capacité de 150 personnes, cette prison regorge à ce jour plus de 800 détenus, dont 10 femmes, 3 nourrissons, 136 militaires et 41 policiers. Quelle analyse faire des conditions carcérales en RDC? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission Maître Placide Mukendi, le ministre provincial de la justice et du gouvernement provincial du Kasaï oriental. Bonsoir, monsieur le ministre Placide Mukendi.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Paulin Odiane, député provincial de l'opposition et cadre du parti politique Mouvement Social, membre de la plateforme Ensemble pour le Changement. Il est président de la commission des ressources naturelles de l'Assemblée provinciale du Haut-Uele. Bonsoir, honorable Paulin Odiane.
Bonsoir, mon frère, et bonsoir à tous les invités.
Et lui, il va nous rejoindre, c'est Maître Onésime Ndoudi, président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au Kasaï oriental, un détenu de la prison centrale de Mujimaï est décédé samedi matin à l'hôpital général de référence de Dipumba. Il aurait succombé d'anémie et de gastro-entérite, indiquent nos sources. De janvier à août dernier, plus de 30 personnes de la prison centrale de Mujimaï sont décédées de malnutrition pour la plupart. Chris Mukande pour les détails.
33 détenus restent encore gardés à l'hôpital général de référence de Dipumba. Ces derniers temps, presque chaque semaine, l'on enregistre un décès parmi eux. Ils supposeraient une difficulté de leur prise en charge médicale. Tout ce dont ils jouiraient, c'est de l'internement. Les produits devraient provenir du centre de santé de la prison. Pour faire face au cas d'anémie, c'est l'administration pénitentiaire qui se voit dans l'obligation de payer pour l'acquisition des poches de sang. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison centrale de Mbujimaï, plus de 120 détenus sur les 917 pensionnaires souffrent de malnutrition dans 51 cas sévère. Le chef de la division provinciale de la justice, sans donner plus de détails sur ce décès, soutient que la situation n'est pas inhérente à la sous-alimentation. Le magasin de la prison serait bourré de vivres et que tout le monde avait sa part de ration. Notons par ailleurs que le jeudi dernier, la chef de sous-bureau de la MONUSCO Mbujimaï et les officiers de l'unité pénitentiaire ont conféré avec le gouverneur de province à propos de la prise en charge des détenus malades internés à l'hôpital général de référence de Dipumba. Des instructions formelles ont immédiatement été données par l'autorité provinciale. Chris Mukand de Mbujimaï, Radio Capi.
Et puis après Goma et Bukavu, la directrice de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO a séjourné à Moulongwe, en territoire d'Uvira, au site Kivu. Objet de sa mission, faire un état des lieux des prisons de l'Est de la RDC. Madame Patience Saï s'est dit encouragée par les efforts consentis par les autorités en vue de maintenir de bonnes conditions carcérales dans cette ville. Elle pense cependant que plusieurs défis restent à relever. Un reportage de Fiston Goma.
Les travaux réalisés par la MONUSCO à la prison centrale sont entre autres la construction d'une clôture en matériaux durables, la construction des guérites aux quatre coins de l'enclos, la mise en place d'un potager, l'octroi du matériel de protection et de l'informatique, etc. Le directeur de la prison salue cette visite, Christian Loukeloa.
Elle a apporté le vivre, le farine de maïs, l'huile et les biscuits pour les enfants.
Le directeur de la prison a par ailleurs évoqué d'autres défis encore à relever, dont les moyens de communication interne pour la surveillance de la prison et la construction d'une cellule à part pour les mineurs à l'instar du quartier des femmes. La réaction de la directrice des Correction Unit de la MONUSCO, Patience Taï.
On a déjà acheté les équipements, donc le Motorola et le système d'alerte en général. La MONUSCO a ciblé 14 prisons prioritaires pour eux et Uvira fait partie de ces 14, donc ils vont aussi bénéficier du système d'alerte et communication. Ce système-là sera lié à la police en cas d'une situation de crise ou bien des incidents. Ça déclenche automatiquement et puis les services de sécurité peuvent intervenir.
Sur une capacité de 150 personnes, cette prison regorge à ce jour 808 détenus, dont 10 femmes et 3 nourrissons. D'Ouvira Fistongo Mamayaba, la Radio Kapi.
Maître Placide Mukendi, ministre provincial de la justice du gouvernement provincial du Kasaï oriental, dans un espace de 8 mois, plus de 30 détenus meurent plutôt à la prison centrale de Bunjumaï. Et comment vous expliquez cela, vous, en tant que ministre de la justice?
Merci bien, monsieur le journaliste, de votre question et je vous remercie également de votre invitation pour parler de ce sujet-là. Il faut d'abord retenir que parmi plus ou moins 30 personnes ou 30 cas de décès enregistrés, il y a 24 qui ont été enregistrés parmi les malades transmis ou transférés à l'hôpital général de Dipumba et pris en charge par le gouvernement provincial. Et au niveau de la prison centrale, il y a plus de 5 cas enregistré. Donc, cette situation est due à quoi? Effectivement, c'est de la mort naturelle et ça n'a rien à voir avec la malnutrition, parce que les prisonniers mangent. Il n'y a pas plus de 2 semaines, nous avons reçu du pouvoir central la traditionnelle dotation pour la nourriture des prisonniers qui est arrivée et je peux vous garantir qu'en stock, il y a des vivres, suffisamment de vivres pour nourrir les prisonniers. Parmi la population carcérale, nous avons des malades, en fait. Et ces malades, nous les référons et c'est pris en charge par le gouvernement provincial. Effectivement, il faut reconnaître qu'une prise en charge optimale nécessite plus de moyens. Comme vous le savez, nous sommes parmi les provinces qui ont un volume bas de recettes et que pour bien gérer les choses, il faut suffisamment de moyens. Et c'est ce que nous faisons de faire savoir au gouvernement central. Donc, les cas de décès ne sont pas dits nécessairement à la malnutrition parce qu'il y a des stocks qui peuvent couvrir plus d'un mois en besoin de nourriture. Donc voilà au moins ce que je peux dire en réponse à votre question, monsieur le journaliste.
Voilà, monsieur le ministre, vous estimez que ce n'est pas la malnutrition, n'est-ce pas, qui est à la base de ces décès. Et vous annoncez ici que vous avez reçu, n'est-ce pas, récemment, c'est vos mots, hein, la traditionnelle dotation pour la nourriture des prisonniers. Et cette nourriture est composée de quoi, monsieur le ministre?
Je l'ai dit la fois passée, lorsque la question m'avait été posée, la nourriture qui est consommée à la prison centrale de Mbujimaï est la même qui est consommée dans toutes les prisons de la République démocratique du Congo. Il y a la farine de manioc, donc le foufou à base de maïs ou de la farine de maïs est mélangé à la farine de manioc. Il y a le haricot, il y a les légumes qu'ils mangent aussi. Donc c'est comme ça qu'on mange dans toutes les prisons de la République. Donc la prison centrale de Mbujimaï ne fait pas exception, monsieur le journaliste.
Oui, dans vos attributions, il y a les volets droits humains. Lorsque vous vous trouvez devant cette situation où on peut le dire, n'est-ce pas, où les droits humains sont bafoués de manière flagrante, comment vous réagissez, monsieur le ministre?
Écoutez, il faut nuancer les choses. Ici, il n'y a pas, les droits humains ne sont pas bafoués de manière délibérée. On parle des droits humains qui ne sont pas respectés lorsqu'il y a intention délibérée de piétiner sur les droits humains. Mais ici, il y a une situation qui est due, par exemple, qui nécessite des moyens suffisants pour une prise en charge optimale, comme je venais de le dire. Il ne s'agit pas d'une façon de piétiner les droits humains. Nous savons que nous avons des problèmes avec nos prisons d'une manière générale et nous sommes en train de y travailler, monsieur le journaliste. La prison, comme vous l'avez dit dans votre commentaire, la prison centrale de Mbujimaï a été construite pour une capacité d'accueil de 150 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 960 personnes. Figurez-vous comment ces gens peuvent vivre dans un endroit comme ça. Et je vous dis qu'à la prison centrale de Mbujimaï, il y a des gens qui dorment tout en étant assis. Et il y a une réunion d'urgence que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, venait de convoquer. Il nous a réunis avec le procureur général. Et je vous dis que depuis hier, le procureur général a dépêché des magistrats à la prison pour déclencher le mécanisme ou le processus du désengorgement de la prison, c'est-à-dire examiner cas par cas les gens qui sont détenus pour des faits bénins ou des gens dont la détention est devenue irrégulière et voir dans quelle mesure on peut les remettre en liberté. Donc la solution définitive pour la prison centrale de Mbujimaï, c'est la délocalisation de la prison centrale de Mbujimaï et puis son agrandissement pour répondre à la capacité d'accueil actuelle. Donc la montée de la criminalité fait que la population carcérale augmente et il faut que la structure de la prison soit à même de convenir au nombre de pensionnaires qui les reçoivent. Et c'est ça que nous sommes en train de voir en partenariat avec en synergie avec le gouvernement central pour voir dans quelle mesure nous pouvons trouver une solution durable. Mais en attendant, nous sommes en train d'intervenir avec les moyens de bord pour que à la prison centrale, la situation se calme. Je vous dis que si peut-être le gouvernement provincial n'y travaillait pas, vous auriez enregistré, on aurait enregistré plus de cas de décès que cela. C'est pas qu'on y travaille. Nous avons, récemment, nous avons connu un problème d'eau, de pénurie d'eau à la prison centrale. Le gouvernement provincial, sous l'instruction de son ministre, le gouverneur de province, a dépêché un camion citerne qui passe à la prison chaque jour pour déposer de l'eau. Donc tout ça, ce sont des interventions que nous faisons. Nous sommes en train de mener à la limite des moyens qui sont les nôtres. Donc, c'est pour vous dire que la volonté y est, on y travaille, il y en est d'aider.
Voilà. Monsieur le ministre, vous revenez souvent sur les ressources financières qui font défaut. Et est-ce qu'on peut savoir la part du budget provincial, du gouvernement provincial, n'est-ce pas, du Kasaï oriental, destiné au fonctionnement de la prison centrale de cette ville, de Mujimaï?
Le gouvernement provincial, monsieur le journaliste, intervient au prorata des besoins lui présentés. Ce n'est pas qu'une intervention bien déterminée, mais les besoins sont évalués par la division provinciale de la justice lorsqu'il y a carence de l'intervention du gouvernement central. C'est en fonction de ces besoins que le gouvernement provincial intervient. Il est difficile qu'on vous dise que, par exemple, par mois, le gouvernement donne 50 millions ou 40 millions. Mais chaque fois qu'il y a des besoins qui sont présentés, se présente au niveau de la prison centrale de Mbujimaï et le gouvernement intervient. Donc tout dépend des besoins qui sont présentés par les gestionnaires de la prison. Donc c'est un peu ça.
Merci, nous allons revenir à vous. Paulin Odiane, député provincial de l'opposition et cadre du parti politique Mouvement Social, membre de la plateforme Ensemble pour les Changements. Vous êtes aussi président de la commission des ressources naturelles de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Comment vous réagissez face à ces tableaux sombres des prisons en RDC?
Merci beaucoup pour la question. Je tiens d'abord à préciser que il y a une différence entre la prison et la maison d'arrêt. Si malheureusement notre loi n'a pas défini les deux termes, mais d'une manière simple, nous pouvons dire que la prison, c'est tout simplement un atout où sont enfermées les personnes condamnées à une peine de privation de liberté. Tandis que la maison d'arrêt peut être définie par nous comme étant un lieu légalement et publiquement désigné par l'État pour recevoir des personnes qu'on vient d'arrêter. Si nous nous référons donc à l'ordonnance du 17 septembre 1965, cette ordonnance, plus précisément à son article 9, dit clairement que les prisons sont destinées à recevoir les individus condamnés par un jugement ou à récouler en force des choses jugées. Donc, à travers cet article, nous pouvons conclure que au sein d'une prison, on ne peut trouver que des personnes qui sont déjà condamnées d'une façon irrévocable. Mais dans nos prisons, si vous passez, moi j'ai visité la prison de Kisangani cet après-midi. Dans cette prison, vous allez trouver les condamnés, vous allez trouver les prévenus, donc vous allez trouver les enfants, et tout le monde est dans cette prison. Une prison qui était construite, je dirais, ce n'était pas une prison d'ailleurs, au début ce n'était pas une prison, c'était un garage à l'époque belge qu'on a transformé en une prison, donc ça ne répond d'ailleurs pas à la qualification d'une prison. Et là, ça pose un sérieux problème. Donc, la capacité de 500 personnes, mais à l'intérieur, vous allez trouver plus de 1000 personnes. Et ces gens, parce que monsieur le ministre a parlé de la dotation. La dotation du gouvernement de la République pour la prison de Kisangani, c'est 65 millions de francs congolais. Et selon la circulaire du ministre de la Justice, un prisonnier est appelé à consommer $1 par jour. Et si vous prenez 65 millions de francs congolais, qui est d'ailleurs une dotation pour 3 mois, vous prenez 65 millions, vous divisez par 1025 personnes, ça va vous donner quelque chose de 31 000 $. 31 000 $, vous multipliez par 1650, ça nous donne 52 428 750. Ça, c'est le montant d'un mois si un prisonnier doit consommer 1 $ par jour. Et alors que la dotation est de 65 millions de francs congolais pour 3 mois. Imaginez. Bon, si on consomme 52 millions, ça reste combien pour les 2 mois? C'est pratiquement une situation difficile à gérer. Il n'y a pas seulement la restauration. Vous devez savoir qu'au sein d'une prison, il y a beaucoup d'activités. Donc, il faut nourrir, il faut chercher le produit pharmaceutique et il faut déplacer les prisonniers qui sont malades vers les hôpitaux. Et là encore, lorsqu'on amène les prisonniers dans les hôpitaux, il n'y a pas de mécanisme approprié pour la prise en charge de ces prisonniers. Comment on peut soigner convenablement ces prisonniers? Comment on peut nourrir convenablement ces prisonniers? Comment on peut mettre de la propreté dans ces prisons? C'est tout un problème. Donc, notre gouvernement n'a pas une politique dans ces domaines. Donc, il n'y a pas une politique claire. Donc, les chefs de l'État à l'époque, je crois qu'en 2011, devant le Congrès, lui, il avait déclaré que la porte de la prison est grandement ouverte pour accueillir, évidemment, les criminels. Mais le chef du gouvernement, qui est censé appliquer la politique du gouvernement, n'a pas pu se préoccuper de cette situation. Il s'est focalisé uniquement sur macroéconomie, ainsi de suite, alors qu'on ne peut pas gérer le pays dans un seul domaine. Voilà. Notre pays manque lamentablement la politique en matière de la population carcérale.
Voilà, vous parlez d'un déficit, n'est-ce pas, de cette politique en matière, n'est-ce pas, de la population carcérale, mais vous avez aussi évoqué l'ordonnance de 1965 qui dit que les prisonniers sont, n'est-ce pas, destinés à accueillir les individus qui sont condamnés par un jugement, mais vous avez relevé que c'est le contraire chez nous, parce que la plupart de ceux qui composent, n'est-ce pas, cette population carcérales sont beaucoup plus des détenus que des condamnés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne faut-il pas appliquer, n'est-ce pas, se conformer à cette ordonnance de 1965 ou alors réformer tous les régimes carcérales, n'est-ce pas, de la RDC?
Il faut une politique générale dans ce secteur ici. D'abord, il n'y a pas de prison. Je prends le cas de Kisangani, il n'y a pas de prison. À Isiro, il n'y a pas de prison. Et à Bounia, il n'y a pas de prison. Ce sont des bâtiments qui étaient construits pour d'autres activités qu'on a transformées à des prisons. Il faut que le gouvernement puisse d'abord construire des prisons et également payer convenablement les fonctionnaires qui sont attachés à cette activité pénitentiaire, parce que ces gens ne sont pas payés. Et comme ils ne sont pas payés, ils vont rendre quel service à la nation? Ça, c'est un autre problème.
Et donc,
il n'y a pas de moyens de transport.
Et donc, le problème...
Quand un prisonnier malade, comment la nuit, par exemple, vers 1h du matin, comment on va l'amener à l'hôpital? Il n'y a pas de véhicule, il n'y a rien. Il n'y a pas de frais de fonctionnement.
Monsieur Paulin Diané...
Monsieur va atteindre l'hôpital comment?
Monsieur Paulin Diané... Et donc, si on vous a bien compris, le problème est beaucoup plus global.
Oui, exactement. C'est global.
Alors, quelle est la situation dans votre province, les Haut-Uele?
Dans les Haut-Uele, il n'y a pas de prison, comme je viens de le dire. Ce qui est considéré comme une prison, c'est une maison privée d'une société, une maison abandonnée d'une société qu'on a transformée en une prison. Et à l'intérieur... on trouve toutes sortes d'individus. Les femmes sont là-bas, les enfants sont là-bas, les détenus sont là-bas. Donc, on ne respecte pas la loi.
Merci.
À la matière.
Merci.
Donc, dans tous les territoires, il n'y a pas de prison.
Merci, monsieur le député Paul Ndiane. Nous allons vous redonner la parole. On devait avoir dans cette émission Maître Nazim Ndoudi, mais il n'est pas, on n'arrive pas à les joindre. Et à la place, on a Maître Omar Kigalou, qui est avocat et chercheur. Maître Omar Kigalou, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à mes co-débatteurs.
Voilà, des détenus qui meurent en masse à cause de la malnutrition, à cause des maladies. Et ce n'est pas nouveau dans les prisons de la RDC. Et la situation ne change pas, au contraire, elle empire. Et pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il y aurait une certaine banalisation de ces phénomènes de la part des gouvernants, ou c'est plutôt le manque de ressources qui explique cela? Parce que, comme on vient de suivre le ministre provincial de la justice du Kasaï oriental, qui parlait, n'est-ce pas, des ressources financières qui posent souvent problème.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste du Verbe, pour m'appuyer. Je crois qu'il faudra retenir que notre pays est un état de droit où tous les secteurs sont régis par la loi, même les domaines pénitentiaires ou les domaines de détention. S'il faut faire un tableau aujourd'hui entre la loi qui existe, qui protège le droit des détenus, et la réalité sur le terrain, on se rend compte qu'il est très profond, il y a une coquille vide. Comme l'a dit monsieur l'honorable Rodian, il y a une loi qui existe depuis 75 qui organise les droits des détenus. Même les détenus ont des droits. Et si vous lisez parfaitement cette loi, on dit que les détenus, qu'ils soient préventifs ou punitifs, parce qu'il faut distinguer la détention préventive de la détention définitive. Et des gens, aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore condamnés, ils sont aussi détenus, ceux qui sont condamnés par un jugement pour l'enfant de se juger. On dit que ces détenus-là ont droit d'abord à un environnement sain, là où ils vivent. Ils doivent être bien protégés sur le plan sanitaire, ils doivent être, pour s'il te plaît. Mais s'il faut faire un tableau aujourd'hui, enquête sur le terrain, allez peut-être nous qui sommes à Kinshasa, à la prison de Makala. Si vous lisez l'histoire, cette prison a été conçue pour recevoir 1500 détenus. Aujourd'hui, allez voir la surpopulation de la promiscuité. La même loi dit que les détenus ont droit de manger 3 fois par jour. C'est ce que la loi dit, de manger de façon convenable. Mais on donne à ces prisonniers, c'est la nourriture qu'on appelle fongolais. On prend le maïs et c'est, nous passons là-bas, nous voyons, ils n'ont pas respect des droits des détenus. On dit que ces gens ont le droit de participer aux loisirs et recevoir des visites. Aujourd'hui, pour accéder à un détenu, même nous qui sommes dans le secteur judiciaire, il faut payer ces gens-là. Même lorsqu'on leur amène la nourriture, il faut payer les agents de l'ordre. Donc il n'y a aucun respect. On dit que les gens-là ont droit à un encadrement psychologique. Monsieur le journaliste, la prison n'a pas pour but de faire souffrir une personne. La prison a pour but d'amasser quelqu'un, de les resocialiser. Il n'y a aucun encadrement psychologique. À mon avis, puisque nous faisons une étude intellectuelle et criminologique, je pense qu'il y a plusieurs causes qui font qu'aujourd'hui, ces droits de l'été ne sont pas respectés. Et on parle aujourd'hui des morts partout. Premièrement, il y a un fait de financement des domaines pénitentiaires. Si vous lisez la loi dont je fais allusion, il est démontré, il est demandé au gouvernement de financer les prisons, c'est-à-dire d'octroyer des moyens conséquents aux gens qui gèrent des prisons afin de bien nourrir les prisonniers et leur accorder des soins médicaux. Aujourd'hui, si un prisonnier tombe malade, en tout cas, allez faire des tours partout, si un Kinshasa, allez en Dolo, vous allez vous rendre compte que si sa famille n'intervient pas, il meurt et personne n'est fait, rien n'est fait. Donc il y a un faible financement du secteur pénitentiaire. Autre chose, il y a l'indifférence du Parlement. Je voudrais là interpeller surtout les parlementaires nationaux. Ce sont eux qui sont l'autorité budgétaire. Au lieu de perdre le temps dans des débats inutiles, je parlerai aussi aux politiciens, au lieu de perdre des débats sur des débats inutiles, sur la machine à voter, sur les élections, il y a des problèmes fondamentaux qui concernent la nation. On ne sent pas un débat sur le droit de l'étranger au niveau du Parlement, et lorsqu'on vote ce budget, on sent l'air indifférence. Il y a une autre chose qu'on doit relever, monsieur le journaliste, la lenteur des dossiers de détention préventive. Comme l'a dit monsieur Diel, il existe de façon théorique la prison qui reçoit les gens qui ont été condamnés définitivement, les maisons d'arrêt qui sortent les détenus provisoires ou préventifs qui attendent d'être jugés, qu'on a arrêtés parce que leur fuite est à craindre. Il y a aussi les amigos qui reçoivent les gens qui sont encore suspects au niveau de l'instruction préjuridictionnelle. Mais si vous vous rendez compte, aujourd'hui on met ensemble et les détenus définitifs et les détenus préventifs. La moyenne en droit pour une détention préventive lorsqu'on la traite, pour savoir s'il faut libérer celui qui est détenu provisoirement ou les condamner, c'est les 3 mois. Et si on peut aller très loin, c'est jusqu'à 2 ans. Mais aujourd'hui, au Congo, il y a des détenus préventifs de plus de 10 ans. Et on vit dans la promiscuité totale. Ce qui fait qu'on accompagne la prison, on la surpeuple, et lorsque l'environnement ne sait pas, la fuite est plus possible, et surtout qu'on mange mal. Il y a un autre problème, le manque d'infrastructures. pour recevoir ces détenus, il faut des facilités appropriées. J'ai parlé du droit à l'environnement sain. On suppose qu'il y a une table, il y a une chaise, il y a une télévision, il y a une salle propre. Alors, s'il n'y a pas d'infrastructure, comment nous puissions avoir une vie possible? Voilà, mon ami, monsieur le journaliste, les tableaux qui sont sombres et les causes y afférentes qui méritent d'être complusées, qui méritent d'être sculptées pour qu'on trouve des solutions appropriées.
Voilà, après avoir évoqué, n'est-ce pas, ces causes qui sont à la base des violations des droits de la population carcérale, maître Omar Kigalou, on se rend compte que depuis un certain moment, depuis quelques années, la population carcérale en RDC a augmenté. Cela peut être attribué uniquement à une augmentation de la criminalité, ou il y a aussi d'autres causes à la base du phénomène?
Cela est d'abord attribué avant tout au manque d'une politique pénitentiaire sérieuse. Vous savez, plus le monde évolue, plus les crimes évoluent. En criminologie, on dit que les crimes sont un effet social comme la prière, comme la nourriture. Aussi longtemps que les hommes vivront, il y aura tous les crimes. Mais le plus important à faire, c'est de prévenir ces crimes et de les combattre. Il y a deux politiques en matière pénitentiaire. Il y a la politique préventive, qui consiste à poser des actes. Par des actes nécessaires pour éviter que les crimes soient commis. Par exemple, par une forte vulgarisation de la loi, par une police appropriée et par le traitement de façon sélective des dossiers de détention préventive. Et deux, il y a aussi la politique curative ou la politique actionnelle. Dès lors, on détient un criminel, la loi veut qu'il soit condamné. Lorsque vous le condamnez, il faut approprier la place. Donc, à mon avis, c'est, il n'y a pas seulement la criminalité qui augmente parce que le crime est un fait social inhérent à la vie des hommes. Il y a deux choses qui manquent à nous. Une politique financière qui doit avoir des piliers, notamment une bonne politique préventive qui consiste à éviter les crimes. Je rappelle, au travers d'une bonne vulgarisation de la loi, parce que nombreux commettent des crimes parce qu'ils ne connaissent pas la loi. De deux, par une police forte, ainsi que par la socialisation des conditions des gens. En criminologie, c'est ce qu'on appelle des crimes pseudo-justiciers. Il y a des gens qui commettent des crimes parce que leurs conditions de vie ne sont pas normales. Imaginez, M. Allah, il a une voiture. M. Dimat n'a pas une voiture. Ça peut créer une certaine haine. Détruire votre voiture pour que vous soyez normal. Il y a des crimes pathologiques, il y a aussi un problème de vulgarisation. Il y a des gens qui commettent des crimes par maladie. Et je rappelle une chose, on doit avoir un encadrement sur le niveau des prisons. Il y a des gens, monsieur le journaliste, qui commettent des crimes pathologiquement. C'est-à-dire, même si vous les mettez à la prison, aussi longtemps qu'il n'a pas un encadrement psychologique, une descente psychologique ne se fera. Donc si on tient compte de cet aspect, je pense qu'on évitera la surpopulation carcérale et on évitera les crimes que nous voyons aujourd'hui, tels que le nombre de détenus en prison.
Merci, maître Omar. Maître Placide Mukendi, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu.
Isaac Bampori, qui est de Bukavu aussi, si vous. La prison aujourd'hui à RDC est beaucoup plus un lieu de répression des opposants et des combattants des mouvements citoyens qu'un lieu de rééducation des vrais criminels. Voilà pourquoi la mort des détenus ne peut pas du tout émouvoir les tenants du pouvoir. Si la prison congolaise était destinée aux vrais criminels, les détourneurs des fonds publics et les seigneurs de guerre seraient les premiers à y entrer. Or, tel n'est guère le cas malheureusement. Ceux qui remplissent les prisons sont souvent les voleurs surpris dans les grands marchés touchant dans les poches des gens ou sur les étalages des marchands distraits, ainsi que les opposants et autres contestataires dont la mort arrange le pouvoir. La route à parcourir est encore longue pour que ce pays devienne un état de droit.
Monsieur le ministre, les véritables criminels sont plutôt à l'extérieur des prisons. Monsieur le ministre Placide Mukendi.
Oui, monsieur le journaliste, je vous écoute. Je voulais tout simplement dire à mon frère de Bukavu que la prison n'est pas faite forcément ou nécessairement pour les opposants à un régime quelconque. Donc il faut d'abord préciser. L'équation, c'est que, avec la montée démographique, la montée de la criminalité, la population carcérale augmente. Les statistiques existent. Si vous regardez, par exemple, parmi quelques cas de décès enregistrés, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas des opposants à qui il fait allusion. Donc, c'est pour vous dire qu'ici, nous parlons d'un phénomène sociétal, d'un phénomène de la société, d'un phénomène criminologique qui fait que la population augmente parce qu'il y a plus de criminels. C'est pour protéger le législateur en instituant la prison. Il a voulu protéger plus la société et protéger aussi le criminel en profitant par sa rééducation dans un milieu carcéral. Ce n'est pas forcément une considération, la prison n'est pas construite pour les opposants. C'est la précision que je voulais lui donner. Mais pour revenir au premier intervenant, il faut d'abord préciser que lorsque la définition qu'il donne de la prison n'est pas du tout mauvaise, mais je voudrais tout simplement préciser que la prison n'est pas forcément faite pour les condamnés. Bien sûr, c'est les lieux où les condamnés doivent rester. Mais lorsque l'officier du ministère public estime que pour besoin d'enquête, besoin d'instruction, il doit le garder dans les délais impartis, garder un prévenu dans un délai imparti par la loi, et que c'est dans l'intérêt du prévenu qu'il soit gardé dans une prison centrale, je ne vois en rien cet officier du ministère public a eu à violer la loi. Donc c'est un peu ça. Le débat doit beaucoup plus. Là où je lui donne raison, c'est lorsqu'il reconnaît qu'il faut effectivement repenser le système carcéral en termes d'infraction. Et c'est ça le problème. Doter suffisamment de moyens au ministère de la Justice pour la gestion des prisons et les mettre dans la dimension des standards internationaux que nous connaissons, comment les prisons fonctionnent. Mais ce qui est aussi vrai, une évidence, c'est que dans le monde entier, quelqu'un qui est privé de la liberté, c'est plus que tout au monde. Rien n'est cher, notre addict, rien n'est plus cher que la liberté. Surtout la liberté de mouvement. Tout ce que nous devons faire ici, le système préventif, oui, le législateur a tout prévu. Lorsqu'on vous dit que lorsque vous ôtez la vie à quelqu'un, voilà la peine qui vous attend à la prison centrale. C'est déjà préventif. On vous avertit de votre comportement. Mais lorsque vous faites fi de ce que le législateur dit, vous commettez des infractions qui font de vous demain un prisonnier, à ce moment-là, il ne faut pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. La loi est là, elle est impersonnelle, elle est générale, elle est faite pour tout le monde. Moi, je pense que le débat doit être mené, comme je venais de le dire, en termes de repenser le système carcéral, en termes d'infrastructure, en termes de moyens pour pouvoir encadrer. Le prisonnier a tous ses droits, on lui a juste privé la liberté pour un temps en vertu de la loi et pour un temps bien déterminé.
Voilà, donc, vous dites, monsieur le ministre, vous dites que les prisonniers, oui, vous rappelez que le prisonnier a tous ses droits.
Des droits comme moi et vous, monsieur le journaliste.
Vous avez raison, monsieur le ministre, mais ça c'est malheureusement en théorie, parce que dans les faits, les choses se passent autrement. Et vous avez tous reconnu, monsieur le ministre, ici dans ces débats, vous avez tous reconnu qu'il y a ces problèmes de financement des prisons. Est-ce qu'il n'y aurait pas, de la part des gouvernants, des autorités politiques, cette négligence? Est-ce que les droits des prisonniers dans ces pays ne sont pas les moindres des soucis des hommes politiques dans ces pays?
Écoutez, monsieur le journaliste, je ne dis pas qu'il s'agit là d'une négligence. Ça c'est fort. Je ne vois pas un gestionnaire d'État, un homme d'État responsable, négligé ses compatriotes du fait seulement qu'ils se retrouvent en prison. Même vous savez que nous sommes un pays avec un budget de 4 milliards, il y a plusieurs des défis à relever dans notre pays. Et je crois que la prison fait partie des défis que le gouvernement doit relever. Mais ce n'est pas une volonté, comme je l'ai dit au début de mon intervention, une volonté délibérée d'un homme politique de considérer que quelqu'un qui est en prison, c'est fatalement un condamné à mort et la mort est certaine. Non.
Merci.
Je dis la fois passée que même parmi la population en liberté, la mort est un phénomène naturel. Même pour parmi les populations en liberté, si on met 1000 personnes, on les observe pendant un mois, deux mois, on verra que parmi ces gens, il y a des décès.
Merci. Les cas de décès merci, Maître Placide.
Enregistrés ne sont pas dus ni à la négligence des dirigeants, encore moins à la malnutrition.
Merci, nous avons compris.
La mort est un phénomène naturel que nous regrettons.
Nous avons compris, Monsieur le ministre. Paulin Odiane, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Albert Colendela Bokomba, depuis Kisangani. La situation carcérale dans notre pays reste à désirer, car la justice congolaise a oublié les missions italiennes de la prison. Selon le site pénitentiaire, la prison est un lieu de rééducation et d'apprentissage. Nous observons que la prison RDC est devenue un mouvoir où les détenus sont dans les conditions humaines et ont fait droit. À mon humble avis, notre justice doit voir les choses autrement pour que les prisonniers apprennent le métier être bénéfique, et même c'est aussi pour la nation congolaise, car la prison est aussi une ressource pour notre État.
Honorable Paulin Odiane.
Merci beaucoup. Avant de répondre, j'aimerais dire à Monsieur le ministre que au Congo, nous devons apprendre à respecter les textes. Si nous nous référons à l'ordonnance du 17 septembre 1965, donc cette ordonnance qui régit donc les domaines sous examen, à son article 6, cette ordonnance dit il est établi en annexe à chacune des prisons visées à l'article 5 une maison d'arrêt. Donc, la maison d'arrêt est différente d'une prison. La prison est réservée exclusivement à ceux qui sont déjà condamnés. En principe, dans chaque prison, on devrait en principe construire une maison d'arrêt pour les prévenus, pour les, ceux qui sont en détention préventive. Mais chez nous, on mélange tout. On ne peut pas mélanger les prisonniers avec ceux qui sont en détention préventive. Ce n'est pas normal, ça ne peut pas se faire comme ça.
Monsieur le député, vous référez, n'est-ce pas, à un texte de 1965, ça fait plus de 50 ans. Vous ne pensez pas qu'il faut réformer, n'est-ce pas, tous les systèmes carcéral de la RDC en essayant de l'adapter à l'évolution de la situation?
Oui, on peut changer les textes, mais même si on changeait les textes aujourd'hui, cette définition reste valable. Donc ça reste valable, il n'y a pas de problème sur la définition de la prison et maison d'arrêt. On doit avoir la prison et des côtés, de l'autre également la maison d'arrêt.
Monsieur Paul Ndiané, comment vous réagissez à cette analyse de Maître Omar Kigalou, qui en parlant, n'est-ce pas, des facteurs qui expliquent le fait que les droits des prisonniers sont violés, il a évoqué notamment l'indifférence des parlementaires plutôt que vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes l'autorité budgétaire, mais il estime que vous ne faites pas assez d'efforts, n'est-ce pas, pour que les conditions carcérales puissent être améliorées. Vous passez votre temps à parler d'autres choses alors que la vie des gens en prison, cette vie-là est exposée, mais apparemment ça ne vous dit absolument rien, vous, en tant que parlementaire.
Non, je crois que Maître a pleinement raison. Vous savez, au Congo, on passe le temps pour des futilités. Nous, le pays est par terre parce que nous, les députés, nous ne faisons pas notre travail. On s'accroche à la discipline du parti. C'est ce qui intéresse les élus. Et c'est tout à fait normal. Et raison pour laquelle nous disons que la population congolaise doit faire attention. Parce que nous partons aux élections. Tous ces gens-là, ils vont encore venir à tromper la population avec des discours que vous connaissez. Et la population va tomber dans cette masse de distribution de t-shirts, et ainsi de suite, de bonbons de gauche à droite, du sel, et ainsi de suite, on va voter les gens pour ça. Or, le député, c'est le représentant du peuple. Lui, il agit à la place de la population. La population l'a mandaté pour donc la représenter. Vous ne pouvez pas aller là uniquement parler de votre parti politique et abandonner l'essentiel de la population.
Merci, bon. Monsieur le député Paulin Odiane. Maître Omar Kigalou, vous allez réagir à cette réflexion qui vient une fois de plus de Kisangani.
Anselme Ali, j'appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. À mon avis, si la situation s'est détériorée aujourd'hui dans la prison centrale de Mbujimayi, cela est une négligence de la part du gouvernement central. Car il est impossible que dans les pays comme le nôtre, où on trouve un gouvernement central qui doit avoir des moyens suffisants pour financer des processus électoraux et qui ne soit incapable de supporter les soins de personnes détenues dans la prison centrale. Selon moi, si le gouvernement central trouve qu'il est incapable de prendre contrôle des conditions de vie des personnes dans des prisons centrales, il serait mieux qu'il nous dise clairement et surtout qui sollicite l'aide extérieure comme la MONUSCO au lieu de sacrifier les compatriotes à leur triste sort car eux aussi ont droit à la vie.
Maître Omar Kigalou, votre réaction?
Merci, ça de plus, monsieur le journaliste du Verbe que vous m'adjugez. Je pose totalement le point de vue de l'auditeur de Kisangani.
Et je dirais au ministre provincial et à l'égard de tous les gouvernants, le mandat public n'est pas un mandat d'explication, c'est un mandat d'action, monsieur le ministre. À part le Parlement qui doit être l'autorité budgétaire, il y a les gouvernements qui exécutent même le peu qui est décaissé. Est-ce que vous faites des tours dans les prisons pour vérifier les conditions de lesquelles les gens vivent? Il s'agit des vies des gens. Il s'agit des vies humaines qui sont sacrifiées. Et on traite les questions d'État avec émotion, avec certaines légèretés, pour mettre dans les termes. Moi, je pense, comme l'a dit l'auditeur, il y a aussi une part sérieuse du gouvernement qui, non seulement, n'a pas assez de moyens, mais avec le peu de moyens qu'il gagne, ne fait presque rien. Il y a aussi une part de responsabilité du magistrat du parquet. La loi veut que le magistrat du parquet général puisse faire tout dans les prisons, respecter, voir s'il y a des sanctions de détention préventive longue et irrégulière, parce qu'il y a une enquête qui a été menée il y a 2 ans, démontrant que 80% des détentions provisoires sont des détentions irrégulières. Un magistrat qui parle bien avec une autorité font des maps pour arrêter injustement les gens. Il y a même des arrestations pour des faits bénins. On arrête quelqu'un parce qu'il a volé une poule. La loi veut que les inspections soient faites. Donc, même pas les responsabilités et du Parlement qui n'autorise pas un budget assez conséquent, du gouvernement qui ne fait presque rien, soit des problèmes que nous déplorons tous les jours. Allez peut-être à la prison de Makala où nous vivons ici. Il y a des prisonniers qui ont des blessures. Est-ce que les ministres de la Justice passent pour voir cela? C'est la Croix-Rouge et certaines ONG qui viennent soigner les gens.
Maître Omar,
si la famille du détenu n'a pas des moyens, je vous dis, monsieur, allô?
Oui, Maître Omar, alors qu'est-ce que vous proposez pour que l'on puisse, en RDC, améliorer les conditions carcérales, à part les problèmes budgétaires qu'il faut résoudre absolument?
Très bien, comme l'a dit monsieur Audien, l'une des valeurs cardinales d'un état de droit, c'est le respect de la loi établie. On commence par respecter la loi. La loi peut être vieille, elle peut être ancienne, et dès lors elle existe, il faut la respecter. Deuxième chose, il faut que nous arrivions à socialiser les conditions des gens. Nous l'avons dit, niveau préventif de guérir. Si les gens vivent dans de bonnes conditions, c'est démontré en criminologie, ils commettraient moins de crimes. Troisièmement, il faut que le parquet général puisse activer la célérité dans le traitement des dossiers de détention préventive. Parce que s'il y a surpopulation, s'il y a surmanque carcéral, la vie humaine n'est plus possible. Il y a aussi une solution fondamentale, il faut qu'on construise des infrastructures appropriées. Nous voulons que notre prison soit adaptée aux standards internationaux, et cela exige des moyens et des constructions énormes. Et enfin, il faut une campagne de citoyenneté. Notre souhait, c'est que tout le monde soit éduqué, qu'il n'y ait pas des gens qui commettent des infractions. Il faut que le gouvernement, au travers les niveaux de la citoyenneté, puisse fédérer les notions de citoyenneté pour que les gens ne puissent pas trop commettre des crimes. Voilà, à mon avis, monsieur le journaliste, les solutions appropriées pour trouver la solution à ces problèmes.
Merci, maître Omar, pour ces solutions. Et en guise de conclusion?
En guise de conclusion, d'abord, je dis merci à la Radio Capi pour cette invitation. Le premier pas sérieux dans le développement commence par le respect des lois établies. La vie humaine est sacrée et l'État l'obligé de la protéger, même la vie des détenus. C'est un appel à la conscience des parlementaires qui doivent être là pour le peuple et non pour l'intérêt de la partie politique en autorisant un budget conséquent. De deux, un appel à la conscience des ministres gérant la justice dans ses attributions en faisant des ventes sur le terrain et à voir lesquels et à même le peu qui est décaissé.
Merci.
Et enfin, j'en appelle aux magistrats qui doivent enquêter et être relaxés.
Merci, maître Omar Kigalou. Nous vous remercions, n'est-ce pas, pour avoir accepté de participer à cette émission. Nous rappelons ici que nous vous avons pris à pied levé. Merci beaucoup pour votre prestation. Monsieur le ministre, maître Placide Mukendi, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer les conditions carcérales en RDC?
Avant de proposer, monsieur le journaliste, je veux rappeler à l'intervenant de tout à l'heure que nous sommes effectivement un gouvernement d'action. Avec les moyens de bord, nous cessons d'intervenir à la prison pour maintenir le cap là où il est aujourd'hui. Mais, comme je l'ai dit, une intervention optimale dans le bien-être des prisonniers nécessite plus de moyens financiers.
Et la solution, monsieur le ministre?
Donc, la solution définitive, c'est de repenser tout le système carcéral de la République démocratique du Congo.
Merci. Merci, monsieur Paulin Oziane. Votre conclusion?
La conclusion, je demande au gouvernement central et le gouvernement et les différents gouvernements provinciaux de travailler ensemble, parce que la prison, c'est un domaine c'est une matière concurrente. Il faut que les deux gouvernements puissent travailler ensemble pour essayer.
Merci, c'est la fin de l'émission. Merci et à ce mercredi pour un autre débat et bonne suite de programme sur Radio Capi.